Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Aujourd'hui, le 475e numéro de l'histoire. Et oui messieurs, on se rapproche du 500e. Peut-être à la fin de la saison si vous êtes sages. Pour parler cette semaine, on avait quoi ? On avait Homestead, on avait de la pluie aussi, mais ça c'est une autre histoire. On avait Homestead, on va parler d'Homestead et on va présenter aussi Talladega qui arrive à grands pas. Aloïs est là, salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Et Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Alors, Homestead, ça a été encore une fois assez fou, ça a été marqué par de la pluie, ça a été marqué par des reports, ça a été une course diurne qui a finalement été une course nocturne. Qu'est-ce que j'ai oublié, Aloïs ?
Bah, que la course ne s'est pas déroulée à la vitesse de l'éclair, mais plutôt selon la vitesse des éclairs.
Très joli. Non, je note, c'est très très bon. C'est vrai que les éclairs nous ont un peu cassé les pieds.
Bah, surtout le premier segment, ouais. Après le reste, pour la suite de la course, ça a été.
C'est ça, le premier segment a été très long, ouais. Il est plus long que toute la course entière. D'ailleurs, à ce sujet, juste avant de parler de la course, selon vous, est-ce que la NASCAR a bien fait de lancer les moteurs, arrêter la course, partir pour 3 tours, arrêter la course, relancer les moteurs, arrêter.
Avec le feu, hein.
Ouais. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu attendre 2, 3, 4 heures et avoir une course intégrale ?
Ou la démarrer peut-être un petit peu plus tôt ?
Non, c'était trop compliqué. Puisque on avait 4 courses sur le week-end d'Homestead, donc il n'y avait absolument pas de marge de manœuvre. Anticiper la X, enfin ça voulait dire avancer aussi la Xfinity,
avancer, ouais, voilà.
Avec le protocole sanitaire qui est en place, ça reste très très compliqué.
Bah, je pense que la NASCAR a surtout parié sur le fait que les éclairs, ou tout du moins les orages, allaient s'éloigner, ou tout du moins s'apaiser en lançant la course. À l'horaire à peu près prévu. Mais 4 tours, des éclairs sont revenus et puis on a bouffé pendant quelques heures.
Oui.
On avait pronostiqué 8, on en a fait que 3.
C'est vrai.
Malheureusement, mais bon, alors, on a quand même eu la course en entier.
Oui, étonnamment.
On l'a testé. La nuit est longue.
Oui. Et on rappelle quand même la politique de la NASCAR quand il y a des éclairs, c'est que dès que les éclairs tombent dans un rayon de moins de 8 miles du tracé, on arrête la course pendant 30 minutes, tout le monde aux abris. Il faut au minimum 30 minutes après le dernier éclair avant de pouvoir repartir. C'est ça la politique de la NASCAR, puisqu'en 2012, du côté de Pocono, il y avait eu un mort et 9 blessés suite à la foudre qui s'était abattue dans les gradins. Enfin, sur le Pocono Raceway. Donc, depuis, on a mis en place une norme un petit peu pour protéger tout le monde, puisqu'on parle des pilotes, bien évidemment, mais il y a aussi tous les officiels et il y a aussi tous les spotters qui sont en ce moment planqués en haut des tribunes, parce qu'ils ne peuvent pas être planqués sur le toit, sinon, distanciation physique, impossible.
Mais c'est aussi aussi valable pour les caméramans de la Fox.
Les caméramans, oui, c'est ça. Mais
au début de course.
Mais quand tu lis en fait sur les réseaux sociaux, les gens disent ouais, ça fait chier, les orages ils sont loin, ça pourrait repartir. Bah oui, mais non, mais enfin il y a quand même des gens qui sont perchés là-haut et qui risquent un peu leur vie quand il y a des éclairs. Et d'ailleurs, les caméras de la Fox, les caméras entre guillemets aériennes dont tu parlais sur le toit des tribunes, ne sont revenues que bien plus tard dans la course.
Donc. Et j'ai l'impression quand même que la Fox a des prérogatives un peu plus strictes que la NASCAR en termes d'éloignement pour tout ce qui est problème avec les éclairs. Parce que la course a été lancée en NASCAR alors que les caméramans de la Fox avaient déjà été rapatriés.
Oui. Mais je pense que oui, ils sont peut-être aussi obligés d'un point de vue assurance de totalement se blinder. Je pense que c'est largement faisable du côté de la Fox de prendre des précautions, et tant mieux, on n'est pas là pour avoir des accidents. Voilà un petit peu pour la partie éclair qui nous a quand même tenu
Quelques minutes.
il y a quelques heures, hein, parce que on a 2h08 plus 38 minutes déjà, et plus un report en début de course d'au moins 1 heure. Donc
Bah, la course est partie vers 10h,
oui,
non, vers 11h en France.
non, vers 11 h.
Vers 11h, donc il y avait 1h30, puisque le drapeau vert était censé se dérouler à 11h, à 9h30.
Ouais, un peu plus de 9h30, ouais. Donc, oui, on. Ça a été sympathique. C'est vrai que ça a joué de malchance quand même, hein, parce que on lance les moteurs, boum, éclair. Ça la fout mal. Maintenant, on va s'intéresser, messieurs, quand même, à la partie sportive de cette course, puisqu'on a eu du sport sur 267 tours. Et à la fin, c'est Denny Hamlin qui gagne déjà. Une troisième victoire cette année pour Denny Hamlin, qui est le pilote le plus victorieux après 12 courses en 2020. Une troisième victoire à Homestead pour Denny Hamlin. Lilian,
Il
Denny
a
Hamlin.
gagné les deux segments, donc
Oui.
c'est pas du tout illogique de le voir gagner.
C'est le premier cette saison à faire 60 points. À remporter les deux premiers segments, enfin à remporter tous les segments d'une course.
J'ai cru sur la fin de course qu'il allait peut-être se faire chipper la gagne par Chase Elliott. En tout cas, ils se sont livrés une belle bataille.
Mais le mur était trop près.
Oui, voilà.
Bon, il n'y avait pas que le mur qui était trop près.
Il l'a bien tutoyé tout au long de la course, quand même, Chase Elliott.
Ouais, il avait la trajectoire Kyle Larson d'Homestead, clairement.
Ben, ça a bien fonctionné, ceci dit, hein.
Ah oui, bah c'est
Et
une.
qu'est-ce que c'est plaisant quand même de voir ces trajectoires.
C'est impressionnant, surtout quand tu vois, par exemple, en fin de course, quand Elliott et Blaney se tirent la bourre et sont tous les deux à quoi? À 1 demi-centimètre du mur? Et qui
Ah
passent
ouais,
à ras la caméra?
donc en fait, messieurs, les ovales d'un mile et demi, faut aller que sur Atlanta et Homestead, quoi. Que des pistes où il n'y a pas de PJ1.
Ouais.
Ouais.
Je dis pas non.
Ouais, puis en plus, Homestead, comment dire, dans sa configuration, comme il est symétrique comparé aux autres à mile et demi où on a un dogleg, ce qui fait aussi sa particularité. Et ouais, clairement, même si c'est un banking progressif, c'est pas forcément ce que je préfère non plus, mais là, oui, le fait qu'il n'y ait pas de PJ1, qu'il y ait plusieurs trajectoires possibles. Et que les pilotes puissent, on vient de le dire, aller très très près du mur extérieur. Moi, ouais, clairement, c'est plaisant. C'est quelque chose qui nous manque. Et en l'état, ouais, ça me plaît bien.
Et Denny Hamlin, messieurs, petite stat quand même, 3 victoires à Homestead, et il fait partie, je crois, des 3 pilotes qui ont gagné, qui n'ont jamais été champions dans l'histoire de la Cup.
Est-ce que ce ne serait pas pour cette année?
Et c'était ma question suivante, en fait. T'as raison, lis dans mes pensées, monsieur Yarma, bah vas-y, réponds à la question.
Bah, j'allais te dire peut-être. Plus
Génial.
sérieusement, depuis l'année dernière, Denny Hamlin fait quand même partie du panier. Il aurait mérité d'être titré l'année dernière, si ça s'est pas fait. Mais on peut pas dire que, tout du moins sur le résultat, il ne mérite pas d'être titré. Ça fait 2 Daytona 500 de suite. À Homestead, il jouait le titre.
Oui.
Daytona, c'est même 3 des 4 derniers.
Ouais, en plus. Donc, cette saison, pour l'instant, c'est quasiment un sans faute. Parce que je dis pas de bêtises sur le résultat, on en a dit 3 victoires, mais les top 5, comme il commence à les enchaîner, surtout sur les ovales d'un mile et demi. Enfin, quasiment que sur les ovales d'un mile et demi. Et on connaît qu'en NASCAR, c'est surtout ce genre d'ovale qui compose la totalité d'une saison, et surtout les playoffs. Donc bon, on peut imaginer que ce soit enfin son année. Et je pense que ses adversaires principaux ne sont pas aussi dominants que l'année dernière. Je pense notamment à Kevin Harvick, à Joey Logano. On peut rajouter Kyle Busch, on peut rajouter Brad Keselowski, why not? Martin Truex Jr., c'est moyen. pour l'instant, le meilleur pilote en 2020, c'est Denny Hamlin. Vous me dites si je me trompe.
Alors, non, tu ne te trompes pas. Je te laisse la parole après, Lilian, mais c'est marrant quand même, parce que sur tous les noms que tu as cités, Martin Truex Jr., Brad Keselowski, Kevin Harvick et Kyle Busch, hein, je crois que tu as donné.
C'est tous les 20, ils ont tous gagné cette saison. Alors, pas Kyle Busch.
Sauf Kyle Busch. Tous les noms que tu as cités, ils sont tous, à l'exception de Kyle Busch, devant Denny Hamlin au classement général.
Mais c'est la réflexion que je me suis fait à la fin de la course, justement. Je me suis dit, ah mais Denny Hamlin a 3 victoires et il est 6e ?
7e.
7e ?
Ouais, mais il a eu des très mauvais résultats.
Oui.
C'est vrai. Enfin,
quand il a perdu son ballast.
Oui, à Charlotte, il fait 0.
Martinsville, ça n'a pas été terrible.
Ouais.
Donc ça en fait déjà 2. En fait, c'est ça, c'est soit il est excellent, soit il est à la rue, j'ai l'impression.
Bah, Martinsville, il fait 24. Bristol, 17, c'était moyennasse.
Oui.
Malgré le fait qu'il ait mené 131 tours. Charlotte, la première course, 29. Phoenix, 20. Et Las Vegas, 17. Sinon, c'est pas moins que 5e.
Ouais, sinon c'est pas mal, mais c'est vrai que les résultats, comme le dit Lilian, les mauvais résultats, ça le plombe sévère.
Et au final, ça compte pas tant que ça, quand on arrive au play-off. Ce qui compte, c'est d'avoir des victoires.
Ah bah pour l'instant, c'est celui qui a le plus de points de play-off, hein. Il en a 18, c'est 5 de plus que Logano, c'est 6 de plus que Keselowski, 7 de plus qu'Harvick et 8 de plus que Chase Elliott.
Après, je voulais rebondir sur ce que disait Loïs. Par rapport au fait que il était très bon sur les ovales d'un mile et demi cette saison, c'est bien, comme tu l'as dit, c'est le type d'ovale qui est le plus visité sur une saison, mais cette année, la dernière, la finale n'est plus sur un ovale d'un mile et demi.
Et la finale est à Phoenix.
Voilà. Ouais.
Mais quand tu vois quand même les playoffs comment ça s'agence au niveau des courses, tu te dis que si Denny Hamlin est encore qualifié à l'issue de la 6e course de la saison, enfin des playoffs, il est quand même candidat au. Il est quand même candidat au Final Four quand tu vois les 3 dernières courses, quoi.
Bah, t'as surtout Martinsville. Hein,
t'as Martinsville où il est là. T'auras le Texas ou Las Vegas parce qu'on parle d'une possible inversion des deux courses pendant les playoffs. Et donc tu auras.
Il y a le Texas avec.
Non, ce sera soit le Texas, soit Las Vegas. Il y aura peut-être une inversion entre ces deux courses pendant les playoffs. Peut-être. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et je crois que l'autre, c'est le Kansas.
Oui, c'est ça. C'est quand à la base, là, oui, moi j'ai Kansas et Texas.
Ouais, c'est ça.
Avec Martinsville, ouais.
Ouais, donc ça pourrait être Kansas, Vegas, Martinsville. À voir. À suivre.
Eux, donc clairement, c'est sûr que. Au jour d'aujourd'hui. Clairement, il a sa place dans les 4 pour la finale, c'est sûr.
Il a sa place dans les 4 et sur la course de, j'allais dire Charlotte, non, de Homestead, c'était le plus fort des 4. Parce que clairement.
Parce qu'il y avait vraiment E4 et les autres.
Il y avait E4 et les autres, et ces 4 pilotes, bah, c'est les 4 aux 4 premières places. Alors, pas forcément dans cet ordre-là en termes de domination sur la course, quoique, mais Denny Hamlin chez Elliott, Ryan Blaney et le rookie Tyler Reddick. Ils ont tué toute concurrence.
Par contre, j'ai pas eu souvenir de cette stat. Avoir 4 pilotes dominateurs comme ça en lice pour la gagne de 4 écuries différentes, c'est quand même super rare selon moi.
C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant.
Et puis tu peux rajouter qu'au final, le 5e est d'une écurie différente.
Et oui, dans le top 5, c'est 5 équipes différentes.
Bon, Harry Calmirola n'était pas aussi fringant pour la victoire, mais au final, 5 écuries différentes.
Ouais.
Et puis, t'as quand même la Levine dans le top 10 également.
Avec Christopher Bell. Non, clairement, on en avait quand même 4 qui étaient au-dessus du lot, mais quelque chose de sévère. Je veux dire. Déjà, Hamlin était au-dessus des 3 autres. Mais les
surtout sur les longs runs. Ouais.
Surtout sur les très longs runs. Chose étonnante d'ailleurs, parce que Chase Elliott, deuxième, ça fait quand même des semaines qu'on dit que la Hendrick ne règle ses voitures que sur long run. Et que là, il s'est quand même bien fait désosser dans le trafic. Bon, après, Chase Elliott dans le trafic, ça n'a jamais été la sécurité sociale. Il l'a encore prouvé dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Il n'a pas été bon dans le trafic. Hein.
Il lui faut le clean air, il faut qu'il soit tranquille.
Ah oui, non mais enfin, quand t'es leader, faut aussi savoir gérer le trafic et il s'est fait avoir, mais comme un bleu par Logano.
Ouais, enfin Logano aussi, il est déjà au-delà du tour.
Oui, oui.
C'est un peu limite, si tu veux.
Ah oui, je dis pas que c'est pas limite, mais
On est d'accord que ça a fait grand vent aux États-Unis cette histoire.
Ça a fait vent, mais Elliott a quand même pris la faute sur lui en disant qu'il avait pas été bon dans le trafic quand même, quoi.
Mais, je suis désolé, mais en regardant la course, j'ai rien trouvé de choquant dans les manœuvres de Joe Logano.
Non, et puis...
C'est juste qu'il est sur sa trajectoire, quoi.
Oui, c'est ça, il se met sur
à l'extérieur. Trajectoire.
C'est ça, c'est une pseudo-vengeance de Bristol. Mais après, enfin... Ok, il avait pas envie de faire gagner Chase Elliott, diront certains, mais... peut pas dire qu'il ait envie de faire gagner Denny Hamlin parce que les deux sont quand même loin d'être potes, hein, donc.
Mais j'ai surtout trouvé qu'il a plutôt emmerdé Denny Hamlin plutôt que Chase Elliott dans le trafic.
Je pense que c'est beaucoup de vent pour rien et que clairement Elliott a pas été bon dans le trafic, Hamlin a été meilleur et Chase Elliott est de temps en temps revenu dans les 20-30 derniers tours quand Hamlin est en tête, mais jamais il arrive à se porter à la hauteur de Denny Hamlin. Et c'est un petit peu ce qui manque quand même, c'est des grosses batailles en tête de course. Mais bon, quand t'as une voiture qui est un petit peu au-dessus du lot, ça n'aide pas.
Après, Ryan Blaney a quand même tenu la dragée haute à Denny Hamlin un bon bout de temps.
Oui, 70 tours. Mais
on a eu quand même des belles batailles, hein. C'était plaisant à voir.
Oui, oui, oui. Donc on a parlé du top 4, même du top 5 avec Eric Almirola. Sixième, Kyle Busch, qui, comme dit, n'a toujours pas gagné cette année. Petite question rapide.
Il a gagné en truck, alors.
Ouais, non, mais en cup, pardon. En cup, il a jamais gagné cette année. Petite question rapide. Ryan Blaney ou Kyle Busch pour une première victoire cette année?
Moi, je dirais bien Kyle Busch, quand même.
Ah, j'aurais été sur Blaney, moi. Avec Blaney.
Blaney, oui, why not, mais pour l'instant, il n'a pas montré qu'il avait ce petit truc pour aller chercher la gagne quand il le fallait. Ouais. Alors que Kyle Busch, on sait qu'il l'a.
Oui, on sait qu'il l'a, mais il ne l'a pas montré cette année, hein, en cup.
Pour l'instant, en fait, c'est ça. Je dirais que Kyle Busch est un peu en dedans en ce début de saison. Alors que Ryan Blaney, pour moi, peut vraiment tirer parti... je vais dire de l'état de forme de la Penske au global en ce début cette année. Okay. Clairement, la Penske, c'est quand même du très 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 fort.
Dès dimanche à Talladega.
T'en as au moins deux sur les trois qui sont là. Et je pense qu'il peut tirer profit de ça. Poconos profil, c'est du tout bon pour lui.
Ah, y a... Je suis en train de regarder les statistiques sur la saison des deux loustiques. Je vois pas une grande différence pour être honnête. Hein.
Ouais, enfin. Donc,
on est à 6 top 5, 7 top 10 pour Kyle Busch. On est à 6 top 5, 6 top 10 pour Ryan Blaney. Avec une place moyenne à l'arrivée de 13-4 pour le pilote Penske et de 12-2 pour le pilote Gibbs. Mm. Donc,
ouais, enfin, après, t'as pas le même.
Supériorité de Ryan Blaney, je la vois pas trop.
Non, mais après, même avant Pocono, hein, t'as la dégâts qui peut être intéressant pour Ryan Blaney.
Après, Ryan Blaney réussit quand même de très belles perfs depuis 2 mois.
Ouais.
Hormis sa mésaventure à Bristol.
Où il enfin, depuis deux mois, la saison n'a repris que depuis un mois tout juste.
Oh putain, je comptais sur le nombre de courses qui étaient faites. Donc, oui, des 2 courses par semaine parfois. J'arrive pas à m'y faire. Depuis Charlotte, voilà, je m'inscris pas dans le temps. Depuis Charlotte, c'est deux top 3 à Charlotte, 4e à Atlanta. Second à Martinsville la semaine dernière et troisième à Homestead.
Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt solide. Alors, 7e Austin Dillon. Donc, t'es content, Aloïs, de voir Austin Dillon 7e. Devant Christopher Bell.
Le nouveau papa, Austin Dillon.
Ouais.
On s'en fout.
Ouais.
J'espère que t'as pas enfumé l'info qui sert à rien de Geoffroy.
Non, non, mais là, excusez-moi, mais non, je préfère même pas rebondir là-dessus, quoi.
C'est même pas une info qui sert à rien.
Non. Comment tu...
Je sais ce que Geoffroy va dire, mais je ne la dirai pas non plus.
Non, mais comment tu veux rebondir sur un tel prénom, quoi.
J'en étais sûr.
Tu peux pas rebondir sur un ace, quoi, c'est pas possible. C'est... Ah, mais qui porte plainte contre ses parents, ce gamin?
Bah ouais, oui, qu'à jouer au tennis.
Ouais, non mais même quoi. Enfin là on divague, je suis désolé, on va prendre 5 minutes parce qu'on est parti dessus. Mais comment tu peux appeler ton gamin Ace quoi? Mais non, mais je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont vraiment pas la lumière à tous les étages. Ou alors c'est peut-être nous qui sommes mal câblés. Hein, mais...
bah, peut-être qu'il l'appelait Ace parce qu'il arrivait à faire un trou en un avec sa compagne.
Oh.
Tiger Woods sort de ce corps. ok, donc bon, c'est... sur ce, on va continuer. On va terminer le top 10 avec William Byron et Brad Keselowski. Discret, mais encore une fois dans le top 10. Après, il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire sur ces pilotes-là. Pour moi, ça a clairement été les quatre fantastiques devant. Et après.
Byron, qu'on a quand même souvent vu dans le top 5, une bonne partie de la course.
Ouais, il fait cinquième du deuxième segment.
Il a été là un moment et il s'est. J'ai pas bien compris ce qui lui est arrivé, mais ils se sont peut-être perdus dans les réglages, dans la 88. Et au final, ça finit malheureusement en dehors du top 10 pour Bowman.
Johnson aussi, pas exceptionnel.
Oh ben Johnson, Détroit Hendrick, c'est... on l'a jamais vu dans le top 10.
Détroit Hendrick, c'est qui
D4 Hendrick. Il y en a eu 3 dans le top 10 hein, quasiment tout au long de la course.
Ouais.
Et Johnson, bah nulle part.
Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette course de d'Homestead, messieurs? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai zappé?
Bah, j'en parlais avant l'émission, mais j'étais quand même assez surpris des 26 et 27e places, respectivement, de Kevin Harvick et Joey Logano.
Oui, c'est vrai.
C'est pas une place qui est commune pour ces deux pilotes, surtout sur des ovales d'un mile et demi.
Harvick fait une crevaison à la fin.
Mais c'était pas fameux pendant la course.
Ah non, c'était pas fameux. Et Logano, c'était pas fameux non plus. Je crois qu'il tape dans les stands en début de course. Et il passe sa course à errer comme une âme en peine à puis deux tours. Donc ça n'a pas forcément été sympathique comme course pour Joey Logano. Ensuite, messieurs, on n'en a pas encore parlé, mais c'était une course importante. C'était la première course depuis la reprise avec du public. On avait 1000 personnes en tribune. Oh, c'est pas énorme hein, à l'échelle d'Homestead, 1000 personnes...
Il y avait 1000 personnes dans les tribunes et ils ont failli se prendre un éclair sur la gueule. Sympa.
C'est ça. Et puis bon, 1000 personnes dans les tribunes à Homestead, c'est toujours 999 de plus que quand il y avait des courses d'IndyCar là-bas. Mais.
Non.
Pardon, c'était gratuit.
Même quand tu en as pas, ils en prennent plein.
Mais attends, c'est pas fini, j'ai encore des infos sur l'IndyCar.
Ah.
Ça viendra après. Mais oui, il y avait des fans, il y en aura un peu plus à Talladega, ils seront 5000 ce week-end, répartis sur différentes sections, et il y en aura 30 000 le 15 juillet à Bristol, messieurs. On va aller une troisième fois à Bristol cette année,
et
la deuxième fois, ce sera pour la All-Star le 15 juillet. On quitte Charlotte, sur lequel on s'était réinstallé depuis 1987, puisque en 86, on était sur l'Oval d'Atlanta, et en 85, ça avait déjà débuté à Charlotte. On n'a peut-être pas voulu, du côté de la NASCAR, aller 4 fois à Charlotte cette année. Ça se serait peut-être vu que Charlotte était le cœur historique de la NASCAR, enfin le cœur historique, le centre névralgique, plutôt. Et... on s'est dit, tiens, Bristol, ça reste le même propriétaire, puisque c'est SMI qui gère Charlotte et qui gère Bristol. Donc on va être sur cette piste de Bristol, messieurs. Quand j'ai vu l'info lundi soir, je me suis dit, ouais, pas convaincu de la chose. Et toi, Aloïs?
Bah moi, je pense que ça peut faire des étincelles, et ça risque même de faire des étincelles.
Oui, oui.
Je ne sais pas si le programme a déjà été dévoilé plus que la piste en elle-même.
Non, il n'y a que le vote des fans qui a été ouvert pour le pilote repêché par le public. Donc ce ne sera pas Chase Elliott puisque lui est déjà qualifié. Mais
je pense que la NASCAR va quand même trouver un format de course dynamique comme elle a l'habitude pour la All-Star Race à Charlotte.
Oui.
Donc je ne me fais pas d'inquiétude, puisque ce n'est pas une course à points. Je pense que les cadeaux ne vont pas être aussi communs entre les pilotes pendant la course. Et on sait qu'à Bristol, les esprits montent rapidement dans les tours. Et puis, tout le monde est proche physiquement, voiture contre voiture, pare-choc contre pare-choc. Donc, personnellement, je pense qu'une All-Star Race est beaucoup plus adaptée à Bristol qu'à Charlotte.
Ah oui, c'est clair. Non, mais... Sur le papier, l'affiche est super alléchante. Ça, je te rejoins complètement.
Dans les faits.
Après, oui, dans les faits, si c'est comme pendant les courses de saison régulière, enfin, ou même de play-off. Non, pas de play-off. Les deux courses de saison régulière.
Bah, cette année, si, de play-off. Bristol intègre les play-off.
Exact. Le 19 septembre, hein, si ça ne change pas d'ici là.
Ouais.
Ouais. Je. Après, comme tu dis, le fait que ça ne compte pas, on aura peut-être des esprits un petit peu plus échauffés. Ça pourrait être sympa. Sur le papier, ça me plaît bien. À voir.
Mais. La chose qui me fait peur, c'est que si on a une All-Star Race à chier, c'est que ça va confirmer le choix de la NASCAR de garder la All-Star Race à Charlotte.
Bah parce qu'on ne se fait pas chier à Charlotte.
Bah si justement, mais bon, c'est une bonne justification, c'est un bon argument pour la NASCAR de dire bon, on a essayé ailleurs, on est allé à Bristol, ça a pas marché, bon bah on va rester à Charlotte.
Bah, il pourrait pas ouvrir le vote aux fans pour ça?
Non. Non.
Parce que tout le monde va dire t'as la dégâts.
Ouais.
Mais
Mais en fait, la NASCAR se sert de cette année 2020, on l'a déjà dit, mais 2020, c'est un super laboratoire pour la NASCAR. C'est le laboratoire dont elle se serait bien passée, mais dont elle avait énormément besoin. Parce que elle peut tester la All-Star ailleurs qu'à Charlotte. Alors ça, bon, la All-Star, en même temps, on s'en fout, mais c'est vrai que c'est quand même à la All-Star qui a apparu les restarts en double fil qui sont maintenant légion depuis des années. Il y a régulièrement des tests des tests moteurs qui sont faits à Charlotte en vue de l'année d'après. Là, cette année, c'est les numéros sur les voitures, sur le côté des voitures, qui vont être décalés vers l'essieu arrière, histoire de laisser plus de place aux sponsors. Alors bon, pourquoi pas, mais de là à lire sur les réseaux sociaux, oh bah si c'est ça, j'arrête la NASCAR, faut réfléchir deux secondes et arrêter d'être débile, quoi.
Non mais c'est trop demandé pour les Américains, ça.
Oh mais ils sont pas tous Américains, parce que j'ai pas lu ça qu'en anglais.
Ah ok, d'accord.
Voilà, mais bon, c'est ainsi. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Ils testent des courses en semaine. Cette année, ils testent la All-Star en semaine, et finalement, c'est beaucoup de serpents de mer qu'on entend depuis des années. Et on verra qu'en 2021, quand le calendrier va tomber dans les prochaines semaines, on aura peut-être un calendrier un peu plus condensé. On aura peut-être 38 courses toujours, enfin 38 épreuves, mais sur 30 semaines. C'est peut-être une solution. On teste des double headers dans tous les sens, puisqu'on a eu du Darlington, du Charlotte, on va avoir du Pocono, on devrait avoir du Dover au mois d'août si tout va bien, et peut-être même du Michigan. Pourtant, si je me souviens bien, la course du Michigan, elle avait été purement et simplement annulée. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la NASCAR, mais clairement, 2020, ils essayent tout, et ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent tenir un calendrier à 36 plus de courses. D'ici la fin du mois de. D'ici la mi-novembre.
Ouais, bah parce que là, j'ai pas fait le calcul, mais on a encore quand même quelques courses à rattraper. Hein.
Bah, si pour l'instant ils font tout ce qu'ils ont dit, on est à 35 courses. En faisant un double header à Dover, on serait à 35 courses. Donc a priori, on se dirigerait vers un double header aussi au Michigan. Donc, et je crois d'ailleurs qu'en termes de calendrier, Michigan et Dover, ça touche. Donc ça ferait deux double headers de suite. À voir. Voilà, ouais. Voilà un petit peu. Je t'avouerai que j'ai dit que ça touchait. Il faut que je vérifie le calendrier. Mais globalement, ce serait sur la période du mois d'août. Ça serait un petit peu comme ça. Alors voilà un petit peu pour la All-Star, messieurs. On a fait un petit peu le tour des actualités de la semaine. Non, il manque une actualité quand même de la semaine en NASCAR, messieurs. Je vous en avais parlé en préambule. C'est la création d'un nouveau poste dans l'organigramme de la NASCAR. Un poste qui est dévolu à Brandon Thompson, à Lewis. Je sais que ça te tient à cœur. Donc je te lance là-dessus. Brandon Thompson a été nommé vice-président de la diversité et de l'inclusion.
Tout ce que je dirais, c'est que le marketing chauffe un petit peu à NASCAR en ce moment. Et ils arrivent à trouver des mauvaises idées. Ce que j'applaudis au final.
D'accord.
Ils arrivent quand même à se surpasser malgré l'actualité un petit peu compliquée. Pas mal. Ils avaient fait des bons efforts récemment, et puis là, ils créent un poste de nulle part juste pour dire « Hey, les gars, regardez, on a embauché un noir !» Ouais, sympa, ouais, tu peux faire autrement pour embaucher une personne afro-américaine. Pas besoin de créer un poste uniquement pour elle, surtout si c'est pour la ghettoiser dans un poste de diversité. Ok, ouais. Je vois ce qu'ils veulent faire, mais c'est pas la meilleure façon pour communiquer sur ouais, on n'est pas si conservateur que ça, on est aussi assez inclusif et il y a des personnes afro-américaines en NASCAR aussi. Voilà.
Mais je sais pas comment c'est perçu justement par les Américains. On va dire l'Américain moyen.
Bah, le fait, c'est que
nous, on voit ça avec notre œil d'Européen, mais vraiment, ouais, l'Américain, leur fan de la NASCAR ou non, est-ce qu'ils trouvent que c'est bien, justement?
Mais en fait, la chose, c'est que nous, puisqu'on est, on fait attention à l'actualité de très près en NASCAR, on est au courant de tout ce qui passe. Mm-hmm. L'Américain moyen, pas tant. Donc, l'Américain moyen n'a, je pense, pas vu cette information et ou a décidé de s'en battre totalement les Robignoles.
C'est dit.
Non, mais disons-le clairement. Je pense que la quasi-totalité des personnes n'ont pas vu cette information passer. Donc, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis un news dump. C'est comme balancer une information un petit peu embarrassante à 2 heures du kick-off du Super Bowl. Parce que tu sais que ça va être noyé dans la masse et qu'au final, l'information, elle est publiée, mais personne ne va la voir. Je pense que c'est à peu près la même chose.
Ok, eh ben écoute, sur tant de poésie, Aloïs, on va enchaîner, on va passer un petit peu au j'aime pas, histoire de souffler avant de parler de Talladega. Allez Lilian, je t'écoute.
Bah, j'aime pas, je pense que vous me voyez venir. C'est l'application TrackPass qu'on n'utilise pas pour regarder les courses, qui a quand même mis plusieurs jours nous proposer le replay de disponible de la course de dimanche dernier. Puisque suite à la météo capricieuse, j'ai pris la décision de ne pas regarder la course en direct. Parce que je me levais très tôt le lundi pour aller bosser. Donc du coup, lundi après-midi, je m'étais dégagé du temps pour pouvoir regarder la course. Et puis la course n'a jamais été mise en ligne.
Précisons qu'à l'heure actuelle, la course complète n'a toujours pas été uploadée sur ce TrackPass.
Alors que d'habitude, c'est fait rapidement.
C'est fait dans la foulée et il a fallu qu'on ait recours. Désolé, je vais faire de la pub, mais à YouTube.
Et du coup, c'est comment la course complète en portugais, Lilian?
Non, alors ça j'aurais pu lundi après-midi. Mais au final, non, je me suis occupé autrement et j'ai préféré attendre. En fait, la NASCAR l'a publié sur YouTube, mais pas sur TrackPass.
Ouais.
Du coup, j'ai attendu mardi après-midi pour regarder la course. Voilà. Dans les conditions du direct, sans savoir le vainqueur. Geoffroy de Meyer rien dit.
C'était avec elle à regarder en direct, ça passait bien. Bon.
Oui, j'aurais passé la nuit comme toi à comater dans mon canapé.
Je n'ai pas comaté et je n'étais pas dans le canapé. Sinon, j'aurais dormi.
Geoffroy, il reste sur une chaise où il se met debout.
Il se met debout devant la télé avec un mug de café dans la main.
Il fait comme moi, il vide son lave-vaisselle, il étend sa lessive.
Ah, tu peux me donner un mug de café, mais il n'y a pas de café dedans.
T'es au quoi en Alsace? À l'alcool?
C'est au Gewürz.
La consommer avec modération, les gars, la consommer avec modération. Ouais, c'est ça. Et ton j'aime, à part
Ah
raconter
bah
des
pas mal,
conneries.
bah tiens, je parlais de fruits justement avec le Gewürz. J'aime bien les gens qui donnent des fruits devant chez eux le soir quand je promène mon chien.
Comment ça, il te donne des fruits comme
Bah,
ça?
ouais, en fait, là en ce moment, il y a des cerises, et puis bah, il y a des gens qui mettent des paniers de cerises, puis ils mettent servez-vous.
Ah, c'est sympa avec le Covid-19 qui tourne, soyez malade!
Bah, ça se lave, Loïs. Alors, peut-être pas avec du gel hydroalcoolique, je suis pas con à ce point.
C'est beaucoup demandé à Lille, ça, hein, je suis désolé. Hein.
Ouais.
Oh!
Tu me diras, ça fera un bon alcool de cerise, hein, ça fera un bon kirsch. Bon, allez,
Manger 5 fruits et légumes par jour.
on va peut-être essayer d'enchaîner un petit peu, Aloïs.
Du coup, mon j'aime, ce sera un big up aux écuries en NASCAR qui sont quand même arrivées, touche pas aux écuries dans les stands, pour certains, qui ont enchaîné la course de Xfinity puis la course de Cup dans la même journée. Et franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est très fort.
Et la veille, ils avaient peut-être fait aussi la Xfinity et la Truck.
Effectivement. Donc quand même, il faut les applaudir et il faut se souvenir qu'ils existent également et que leur job n'est pas aussi facile qu'on puisse le penser.
C'est vrai. Et ton, j'aime pas.
Moi, j'aime pas. Je dirais un peu comme Lilian, ce serait facile, mais ouais, les éclairs, c'est relou. On aime bien regarder la course en live. Donc la météo, ça serait bien qu'elle se calme un petit peu ces temps-ci. On n'a pas été super gâtés. Donc on
Depuis
aimerait
la
bien regarder les
reprise,
courses
c'est
en direct
compliqué,
et à
ouais.
2 h descente en France.
Non, mais les mecs, en fait, on a la solution. Faut remettre les cours sur iRacing.
Ouais, comme
Mais
ça on
Denny
pourrait
Hamlin, il
rester.
gagne pas sur iRacing.
Ah bah si, s'il planque les télécommandes. Allez, messieurs, mon j'aime. Ce week-end, il y avait les 24 heures du Mans. Alors, 24 heures du Mans virtuel, hein. Ne me dites pas, non, il n'y avait rien dans la Sarthe. Il y avait les 24 heures du Mans virtuel, c'était sur Air Factor 2. Et franchement, ça valait son pesant de cacahuètes. Alors
C'était pas
ouais,
mal.
ah ouais, c'était pas mal. Alors il n'y avait qu'une seule catégorie en proto, c'était des P2. Mais franchement, ça a été une belle course. Alors j'ai pas pu tout suivre parce que j'avais d'autres obligations. Mais c'était vraiment intéressant avec de la grosse bagarre tout au long de la course. Ah oui, il y a eu des bugs, tout n'est pas parfait. Il y a eu deux drapeaux rouges parce que les serveurs étaient en train de partir en cacahuète. Faut quand même être honnête. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu des grosses bagarres. Il y avait du beau monde. Il y avait Penske avec un équipage que de pilotes de réels, pas de pilotes de simulateurs. Il y avait quand même Dan Cameron, il y avait quand même Juan Pablo Montoya dans cette équipe-là. J'ai mangé le nom des deux autres. Non, Ricky Taylor. Non, c'est Ricky ou c'est Jordan Taylor? Non, c'est Ricky Taylor à Penske. Et j'ai mangé le quatrième, désolé. Mais voilà quoi, il y avait du gros gros monde et c'était dire du gros monde en parlant de Montoya.
Oh,
Bref, désolé.
oh, c'est pas gentil.
Ah, c'est pas
Oui,
gentil.
c'est petit, franchement, c'est petit.
C'est très petit. C'est très petit. Mais bon, c'est pas grave.
D'ailleurs, j'ai vu que Charles Leclerc, qui a mené une bonne partie de la course, a eu un bug et a dû quitter la course à quoi, 1 h de la fin?
Oui, mais le quatrième chez Penske, je suis con, c'était Simon Pagenaud, qui nous fait un changement de baquet dans Arnage. Il arrête son proto à l'extérieur d'Arnage parce qu'il a un problème avec son baquet, il change tout, il remonte sur son baquet, il repart, quoi. Excellent. Donc voilà. Et mon j'aime pas, bah figurez-vous que pour la première fois en 3 mois que je vais manger à l'extérieur le midi, il y a le facteur qui passe pour me livrer un colis qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Et habituellement, il laisse tout ça à côté dans la cage, à côté des boîtes aux lettres dans les immeubles. Bah là, non.
Bon bah t'as gagné un aller-retour jusqu'à la poste, hein.
Vive la poste, ça va, elle est à 500 mètres de chez moi, mais vive la poste quand même, quoi.
Oh, mais il y a la queue à partir de chez toi
Non, 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 non.
J'exagère.
Ah, du coup, la queue elle va jusqu'en Allemagne. Putain.
Bah maintenant que ça a rouvert, oui. Oh là là. L'info qui sert à rien, messieurs, parce que là, ça fait quand même 7 minutes qu'on est sur du j'aime, j'aime pas et de l'info qui sert à rien. Je pense que c'est la rubrique la plus longue qu'on ait faite de l'histoire. Et on est que 3.
C'est plus long que l'IndyCar en fait.
C'est ça. Et ben l'info qui sert à rien, on va parler d'IndyCar. Puisque ben, l'IndyCar a perdu son flagman. Donc l'homme qui agite le drapeau. Et je cite Aloïs en début d'émission. Le flagman de l'IndyCar est un gros connard. Enfin, l'ex-flagman, pour le coup. Puisque, pourquoi il a été viré, enfin,
pourquoi, voilà,
pourquoi l'IndyCar en recherche un parce qu'il a été viré. Pourquoi il a été viré parce qu'il s'est exprimé en disant que... Comment ? L'officiel qui mettait le genou à terre, l'officiel afro-américain de la NASCAR qui mettait le genou à terre pendant les cérémonies d'avant-course, bah, c'était pas top. Donc,
Je maintiens mes mots et je reste sur ma position.
Eh bah écoute, je n'attendais pas moins de toi, sinon peut-être que tu réitères ça et que tu le dises à voix haute devant tout le monde, mais non, tu n'as pas osé. Allez, on reprend, messieurs, le fil de l'émission. Du côté de Talladega, chez les rednecks, chez les confédérés presque, hein, Loïs.
Mais j'allais te dire, plus ou moins 5 drapeaux confédérés dans l'infield ce week-end.
Tu penses ?
Je suis certain. Ah, je suis absolument
certain. Oh, si, on les verra, ils vont faire des plans, la Fox, dessus.
Bah, ils sont censés être interdits. Après, les gens vont peut-être pas enlever leurs tatouages.
Ouh. Tant que c'est pas des tatouages nazis, on s'en sort bien.
Bah oui, mais bon, enfin, c'est vrai que ce drapeau confédéré a quand même fait énormément parler. Et ce drapeau confédéré, pour ceux qui se posaient encore la question, non, ce n'est pas le drapeau des États-Unis. Hein. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière.
Vaguement.
Vaguement, hein, c'est ce qui me semblait. Mais non, mais ce n'est pas la même chose. Donc ce week-end, messieurs, c'est Talladega et une course d'Xfinity, une course de Cup. Encore un nom exceptionnel en Xfinity, Aloïs, hein, les déjantés 300, si on traduit.
C'est à peu près ça.
Et le lendemain, c'est sponsorisé par une assurance bien connue, l'assurance de sur la voiture de Ty Dillon, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Et le principal actionnaire, c'est Dale Earnhardt Jr.
C'est ça. Et voilà, les Geico 500, va bien falloir, de toute façon, il faut bien que ce soit sponsorisé par une assurance quand tu te doutes de la casse qu'il va y avoir, sachant que... Bah comme c'est le cas depuis la reprise, il y a 2 mois selon Aloïs, il y a 1 mois selon la NASCAR, vérifiez vos sources, il n'y aura pas d'essai. Pas d'essai, pas de qualif. Mais alors autant sur un 1,5 mile et compagnie, ça peut passer la preuve. Mais à Talladega, ça fait quand même 3 mois et demi, 4 mois qu'ils n'ont pas roulé à Daytona.
Et même, Ryan Newman n'a pas roulé les 4 roues posées au sol depuis autant de temps.
Sur un ovale type d'Italien et Talladega, oui. Donc,
à part, je pense que c'est quand même une bonne chose pour les moteurs, parce qu'au final, ils tournent moins.
Ils tournent un peu moins, mais on n'est pas à l'abri quand même de grosses surprises dès le départ. Ou alors, on a du single file pendant 185 tours.
Parle pas de malheur.
Ah bah non, mais j'évoque toutes les possibilités.
Tu penses que ça va se finir en single file pendant quoi, 2/3 de la course ?
Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue tu te places. Talladega et Daytona nous ont habitués à ça ces dernières années. Je me souviens d'une course pendant les playoffs où Ryan Blaney termine 4e. Il était à l'époque en saison partielle à la Woods dans la 21. Je crois que même sous le drapeau à damier, il n'y avait personne qui avait bougé, quoi. Il a fallu attendre la décélération pour que tout le monde bouge pour éviter de s'emplafonner les uns les autres. Donc oui, malheureusement, ça peut arriver. Après, est-ce que ça va arriver ? Je sais pas, je n'ai pas la même boule de cristal que toi, Loïs.
Bah, je n'en ai pas non plus, donc j'espère juste qu'on ait une belle course. Pour l'instant, le fait de ne pas avoir d'essai ni de qualif réussit plutôt pour le déroulé des courses. À voir si ce sera la même chose sur un ovale à plaque.
Oui, après, enfin, là, c'est tellement spécifique.
C'est ça. C'est tellement spécifique que ça me fait un petit peu peur, cette affaire. Et je suis pas certain qu'on ait la course du siècle.
En fait, toi, après, les seuls points chauds, ce sera les arrêts sous drapeau vert, quoi.
Ça sera les arrêts sous drapeau vert et la décélération a parfaitement géré pour passer de 190 miles, presque 200 miles, à 55 miles par heure dans les stands, et ne pas se louper, ne pas être sur la trajectoire extérieure quand on veut rentrer au stand, Il y en a qui l'ont déjà fait dans le passé, je tairai les noms. Vous voulez les horaires, messieurs ?
Si tu as ça, why not ?
Avant ou après la pluie ?
Avant la pluie. Je t'avouerai que je n'ai pas regardé encore la météo pour Talladega. J'attends un petit peu. Mais si t'as les infos AccuWeather ou autre, vas-y.
Autre, c'est téléphone, c'est iPhone pour l'instant.
Ah bah vas-y, pendant ce temps-là...
Et il n'y a pas d'orage prévu et il y a du soleil.
Eh bien,
voilà.
Pour tout le week-end, par contre, ils risquent de griller puisqu'ils annoncent 33 degrés au maximum.
Ah bah, sweet home Alabama.
Exactement. Et sur la journée la plus chaude, enfin la plus longue de l'année, hein, puisque c'est le jour de l'été. Donc, les horaires, 13h50, les pilotes qui sont appelés aux voitures, 14h la course. Et comme c'est le cas depuis 6 courses, je n'ai pas l'heure du drapeau vert à vous donner, messieurs. J'espère que je l'aurai avant dimanche. Donc, ce qui fait du 21h en France. Allez, un petit drapeau vert vers 21h15, 21h30, s'il y en a un qui perd son ballast et qu'il faille réparer un petit peu et qu'on décide de l'attendre un petit peu pour pas qu'il ait 25 tours de retard. Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur Talladega, messieurs ? Si, je crois qu'on a un nouveau package aéro qui sera légèrement différent de celui de Daytona. Enfin, nouveau package aéro, oui et non. C'est surtout qu'on a des améliorations liées à la sécurité suite au terrible accident de Ryan Newman. Avec, justement, je crois qu'il y a une barre Newman au niveau du pare-brise. Pour essayer d'augmenter la sécurité.
Pour renforcer la cage ?
Donc voilà, Aloïs, tu veux dire quelque chose d'autre sur Talladega ?
Oh bah, comme d'habitude à Talladega, on espère qu'il y ait du spectacle et qu'on ne soit pas bloqué sur du single file pendant la majorité de la course.
Bah ouais, ce serait bien. Lilian !
Et aussi, je vous demande, mettez des gants, parce que je pense que les portes vont claquer.
C'est vrai, c'est possible.
Ah, tu demandes aux experts en chef, hein. J.J. Elliott, Joey Logano, Brad Keselowski,
Ricky Stenhouse.
C'est vrai. Il aura à cœur d'aller chercher la victoire pour se qualifier au playoff. Hein.
Et Lilian, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur Talladega ?
Je partage l'avis d'Aloïs.
Ok. Rendez-vous donc ce week-end pour suivre les courses. Je crois d'ailleurs que... Enfin, AB Moteur, j'allais dire. Non, Automoto la chaîne ne diffuse pas en direct puisqu'il y a une finale de motocross ou de supercross, enfin il y a un truc.
Ah, c'est dommage ça.
Et donc la course sera sûrement en différé dans les conditions du direct le lundi soir pour ceux qui voudraient une séance de rattrapage.
On risque de râler sur la page de Patéfil.
Ah bah oui, mais je crois qu'ils n'y sont pour rien, que ce ne sont pas eux qui prennent les décisions.
Non, mais c'est sûr.
Voilà, mais après voilà, il y a quand même des gens qui râlent à chaque fois, mais si je pense que si Patéfil avait le choix, il ferait le choix de la NASCAR plutôt que le choix du supercross ou du motocross. Enfin, je sais plus.
Ah oui, bah oui.
Je sais plus ce que c'est. Je connais pas la grille d'automoto. Voilà, messieurs, on va s'arrêter parce que on a encore fait une demi-heure de 50 minutes. Donc voilà, rendez-vous ce week-end pour suivre les courses et la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. À bientôt, bye bye.
Ce week-end pour les courses, bye bye.
Bonne semaine à tous et bonne Talladega pour vous.